Europe 1, il est midi. Bonjour à tous.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Et vous avez la parole. Mais tout d'abord, le journal d'Europe Midi avec à la une aujourd'hui la vague de chaleur sur toute la France, des chaleurs précoces. On ira à Bordeaux où l'on attend plus de 30 degrés cet après-midi. Et puis, avec Louise Salé, on parlera de ce coup de gueule ce matin du secrétaire général de l'ONU qui dit qu'on se rapproche d'une catastrophe climatique. On ira à Nice où la justice vient de donner raison au bailleur social qui veut expulser de son HLM la mère d'un trafiquant de drogue qui nuisait à la tranquillité du quartier. On sera en direct avec Frédéric Michel. On ira à Cannes pour la présentation événement mondial dont Europe 1 est partenaire du dernier Top Gun en présence de Tom Cruise. On sera également en direct avec notre reporter Johan Tritz qui va décoller avec la patrouille de France qui volera au-dessus de Cannes pour l'occasion. Inflation, chaleur, expulsion des locataires HLM qui pose problème. On en parle avec vous au 39-21 et avec Rudolf Granier qui est conseiller Les Républicains du 18e arrondissement de Paris. Bonjour Rudolf Granier.
Bonjour Romain Desarbres.
Et merci d'être avec nous. Et avec Xavier Iacovelli, sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine. Bonjour Xavier Iacovelli. Et à tout de suite, tous les deux.
Europe 1.
Plus de 30 degrés, voilà ce qui vous attend cet après-midi dans de très nombreuses régions. Une chaleur inhabituelle pour un mois de mai. Alors si certains d'entre vous se réjouissent, d'autres cherchent désespérément un peu de fraîcheur, notamment à Bordeaux où l'on vous retrouve, Stéphane Place. Bonjour Stéphane.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Quelle température affiche votre thermomètre à midi là? Il est midi 2.
Alors je regarde pour vous donner une réponse très précise. Là je vois s'afficher un bon 27 quand même, un bon 27 degrés. Alors certes, il y a un peu d'air et ce n'est pas désagréable, surtout en ville, forcément avec des températures pareilles. Noël retraité reconnaît que cela intervient un peu tôt dans la saison, mais vous allez l'entendre, cette chaleur ne l'empêche pas de dormir.
C'est pas normal, je reconnais, mais enfin ça me gêne pas. J'ai vécu en Afrique longtemps, dans des pays, dans des régions très chaudes, je souffre pas, j'ai l'habitude. Je vais me couvrir un peu moins, c'est tout quoi. Au mois de mai, comme ça, une pareille température, ça n'a jamais vu, enfin j'ai jamais vu. Ah, je sais que c'est pas logique.
Pas logique et plus compliqué, il faut le dire, pour tous ceux qui travaillent, par exemple, sur des chantiers en pleine chaleur ou pour Laurent, chauffeur-livreur que l'on a croisé tout à l'heure, un peu en sueur, c'est normal, en train de décharger son fourgon.
Alors on s'adapte, on a la clim dans les véhicules et puis on s'hydrate, on boit de l'eau, on prend notre temps.
Vous avez commencé plus tôt, du coup, un peu ce matin?
Non, on ne peut pas commencer plus tôt à cause des ouvertures des enseignes, moi, des magasins. Voilà. On est plus fatigué, peut-être. Cette année, c'est très tôt. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais en général, oui, ce sont des chaleurs qu'on répercute fin juin, peut-être, ou mi-juin, quoi, pas avant. Quoi. Juillet, août.
Bon, Laurent, je vous laisse continuer. Alors là, ça pèse combien, ça?
Dans les deux palettes, il y avait 200 kilos.
Et voilà, 200 kilos. Et puis Romain, c'est l'heure de passer à table et tous les clients ne se précipitent pas sur les terrasses, préférant la fraîcheur de l'intérieur du restaurant où Leslie travaille par exemple avec le souci d'apporter du frais dans les assiettes.
C'est un peu tôt, ouais. Mais c'est pour ça qu'on a tous notre rôle à jouer sur le climat, donc à nous de faire attention à ce qu'on consomme. On travaille que des produits de saison déjà, et en fonction du temps, bien sûr, on va travailler des choses un peu plus fraîches. Par exemple, on fait un plat végétarien, c'est des pâtes avec un petit yaourt à la grecque, des petits légumes de saison, ça reste assez frais, on travaille sur quelque chose de frais, on essaye d'amener de la fraîcheur comme on peut, tout en restant sur notre cuisine.
Enfin Romain, une pensée pour ce trentenaire qui était en train d'enlever sa cravate quand je l'ai croisé il y a 10 minutes. Il n'avait pas le temps de me parler, figurez-vous, et il avait une excellente raison, il filait à la plage, à l'avantage d'habiter à Bordeaux.
Voilà, effectivement. Merci beaucoup Stéphane Place. Voilà, et bon courage à vous tous si vous devez travailler avec ces fortes chaleurs. Alors que les températures battent des records de plus en plus tôt dans l'année, comme on vient de le voir à Bordeaux, l'ONU s'inquiète de l'échec de l'humanité à lutter contre le réchauffement climatique. Le rapport annuel sur l'état du climat mondial a été publié ce matin. Et ce que l'on constate, Louise Salé, bonjour Louise.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
C'est que 4 marqueurs clés du réchauffement climatique ont été dépassés l'année dernière. En clair, on a battu de nouveaux records.
Oui, alors ça arrive tous les ans, puisque les hommes continuent d'émettre plus de CO2 chaque année, donc on bat chaque année forcément de nouveaux records. En 2021, d'après l'ONU, les concentrations de gaz à effet de serre n'ont jamais été aussi élevées. Même chose pour le niveau de la mer et l'acidification des océans. Ça, c'est un phénomène physique. Quand l'eau se réchauffe, en fait, elle devient plus acide. Pour la température, on a déjà eu des années plus chaudes que d'autres. Mais là, ce qui est frappant, c'est que les 7 dernières années écoulées ont été les 7 les plus chaudes jamais enregistrées. Samuel Morin est directeur du Centre national météorologique de Météo France.
Année après année, ces données sont sans appel. Le climat se réchauffe. La cause en est les émissions de gaz à effet de serre par la combustion du pétrole, du gaz naturel, du charbon principalement. Et quelque part, sans limitation massive de ces émissions qui demandent des changements structurels extrêmement profonds, eh bien, il faut s'attendre à battre des records encore année après année pour les prochaines années.
Le réchauffement climatique a déjà dépassé la barre des 1 degré. Bref, malgré tous les beaux discours que l'on entend sur l'urgence de sauver la planète, tous les indicateurs, eux, restent bloqués au rouge.
Louise Salé, merci beaucoup Louise. Et justement, la Commission européenne dévoile en ce moment même son plan pour sortir au plus vite des hydrocarbures russes, comme le gaz qui représente 45% des importations européennes, mais aussi le pétrole. Les 27 États membres vont devoir trouver des alternatives. Maud Descamps, bonjour Maud.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
La Commission européenne veut donner un grand coup d'accélérateur à la transition énergétique, c'est-à-dire le basculement vers des énergies propres.
Hein. Oui, Bruxelles veut une refonte massive du système énergétique européen pour sortir au plus vite des énergies fossiles russes. La Commission veut à la fois sécuriser ses approvisionnements en gaz et en pétrole en trouvant des routes alternatives. Pour cela, l'Europe va augmenter ses importations de GNL, le gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis, mais aussi le gaz classique qui arrive par pipeline de Norvège, d'Algérie et d'Azerbaïdjan. Bruxelles veut aussi accélérer et pousser un peu plus loin les objectifs de la transition énergétique en passant par exemple de 9 à 13% la réduction de notre consommation d'énergie d'ici 2030. Un objectif atteignable selon la Commission européenne si de gros efforts sont faits en termes de rénovation des bâtiments et de l'habitat. Et enfin, Bruxelles veut développer massivement les énergies renouvelables. L'idée est de passer de 40 à 45% la part du renouvelable dans le mix énergétique européen d'ici 2030, en doublant par exemple la part de toitures solaires ou encore en facilitant l'implantation des éoliennes.
Maud Descamps, merci beaucoup Maud. Un moment très fort à Kiev. Pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, un soldat russe va être jugé pour crime de guerre. Il n'a que 21 ans, Thibaut U. Le procès va commencer dans une heure. Bonjour Thibaut.
Bonjour.
De quoi cet homme est-il accusé ?
Eh bien d'avoir tué un homme de 62 ans qui n'était pas armé. Selon les accusations, les faits remontent au 28 février, au tout début de l'invasion, et se sont déroulés dans le village de Choupakivka, au nord-est de l'Ukraine. Ce soldat russe aborde une voiture volée avec 4 autres militaires a tiré depuis sa fenêtre. Le civil est mort sur le coup à quelques dizaines de mètres de son domicile. Selon la procureure générale, Vadim Chichimarine est un jeune soldat de 21 ans. Vendredi, lors de son audience préliminaire, il est apparu à la télévision ukrainienne, menotté en survêtement gris, le crâne rasé. L'individu a expliqué être venu combattre pour soutenir financièrement sa mère. Enfin, il a reconnu les accusations en précisant avoir reçu l'ordre de tirer. Alors ce procès qui s'ouvre aujourd'hui aura une valeur de test pour la justice ukrainienne. La notion même de crime de guerre répond à des standards internationaux très précis qui seront examinés, vérifiés de façon indépendante. La Cour pénale internationale a annoncé dans les prochains jours le déploiement de 42 enquêteurs et experts dans le pays.
Thibaut U, merci beaucoup Thibaut. Cette réaction et cette prise de parole du Kremlin à l'instant concernant ce procès, le Kremlin a assuré n'avoir aucune information sur le cas du soldat russe jugé donc à partir d'aujourd'hui pour crime de guerre en Ukraine, tout en accusant Kiev de fabriquer les accusations de ce type visant la Russie. Réaction de Moscou donc à ce procès dont vous nous parliez à l'instant, Thibault. Autre information concernant la guerre en Ukraine, le ministère russe de la Défense a annoncé que 959 militaires ukrainiens retranchés sur le site d'Azovstal à Mariupol se sont rendus depuis lundi. Le ministère n'a pas donné d'indication quant au sort qu'il réservait à ces prisonniers. La politique en France, le remaniement, c'est pour quand ? On n'a pas vraiment la réponse. Le Conseil des ministres prévu demain est reporté sine die pour laisser le temps à Elisabeth Borne de choisir les noms de ses ministres. Une chose semble claire, Jacques Serret, la nouvelle première ministre ne devrait pas, au moins dans un premier temps, opter pour un gouvernement pléthorique, Jacques.
Oui, car c'est le souhait d'Emmanuel Macron, constituer un gouvernement resserré, une quinzaine de ministres, 20 tout au plus, celui de Jean Castex comptait 16 ministres, 15 ministres délégués et une dizaine de secrétaires d'État, 41 postes au total. Là, dans un premier temps, il n'y aurait que des ministres et c'est après les élections législatives du 12 et 19 juin que d'autres nominations pourraient avoir lieu. Toujours est-il que c'est en ce moment que ça se joue. Elisabeth Borne était encore hier soir à l'Élysée pour constituer la liste de noms avec le président. L'annonce du nouveau gouvernement devrait avoir lieu d'ici à vendredi. Dans le même temps, la nouvelle première ministre planche sur la composition de son propre cabinet. Des nominations qui souvent veulent dire beaucoup de la ligne politique de Matignon. Aurélien Rousseau, ex-patron de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, devient son directeur de cabinet. Il était déjà rue de Varenne du temps de Manuel Valls et de Bernard Cazeneuve. Thomas Lavielle, directeur du cabinet du préfet des Yvelines, est nommé chef de cabinet. Et puis, selon nos informations, Marie-Emmanuelle Assidon, ancienne directrice de la communication du Parti Socialiste, devrait être nommée conseillère pour les affaires intérieures.
Jacques Serret, merci beaucoup Jacques. Cette annonce faite il y a quelques instants par la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, elle déclare vouloir faire du périphérique une ceinture verte de la capitale, promettant de végétaliser 10 hectares, de planter des arbres, de réduire le nombre de voies de circulation sur le périphérique, ce qui va créer évidemment des bouchons. La voie olympique, une voie sera réservée pendant les JO aux athlètes, aux officiels et aux secours. Et bien cette voie sera, après les JO, réservée aux bus, aux taxis, au covoiturage. Elle espère retirer 80 000 voitures de la circulation, annonce faite il y a quelques instants. Midi 11, restez bien avec nous sur Europe 1. Et dans Europe Midi, dans un instant, on part à Nice où la justice a donné raison au bailleur social qui souhaitait expulser la mère d'un trafiquant de drogue qui posait problème. On va vous raconter l'histoire. À tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
On avait parlé de cette affaire il y a quelques mois dans Europe Midi. Un bailleur social niçois avait décidé d'expulser de leur logement une famille après la condamnation du fils, âgé de 19 ans pour trafic de stupéfiants. La mère du jeune délinquant avait alors saisi la justice. Mais le tribunal judiciaire de Nice a tranché et il a donné raison au bailleur social, Frédéric Michel.
Oui, effectivement, le fils avait été écopé de 20 mois de prison pour trafic de stupéfiants, 10 mois avec sursis, 10 autres sous bracelet électronique. La ville de Nice avait soutenu le bailleur social à l'origine de la demande d'expulsion. Des associations de défense des droits de l'homme s'étaient au contraire offusquées qu'une mère de famille paye pour les délits de son enfant. Thomas dit d'ailleurs ne plus vivre chez sa mère. Invité il y a quelques mois sur le plateau de Touche pas à mon poste, le jeune homme avait avoué à Cyril Hanouna « Si j'avais su que ma mère allait être expulsée, j'aurais arrêté le trafic. Elle me demandait d'arrêter mes bêtises. » Concluant que je paye, c'est normal, mais elle, non. Ce n'est pas l'avis de la ville de Nice qui rappelle que cette condamnation permet de démontrer que dans ce dossier, il y avait une véritable gêne pour le voisinage. Une convention unique en France, signée avec le préfet et le procureur de la République de Nice, permet aujourd'hui à la ville et à ses bailleurs sociaux d'entrer en procédure contre toutes les formes de nuisances. Les trafics en tout genre sont visés. Le fait que la justice prononce la résiliation d'un bail démontre l'efficacité du dispositif, se félicite Côte d'Azur Habitat. À Nice, 132 autres demandes d'expulsion sont en cours.
Frédéric Michel, merci beaucoup Frédéric. D'ailleurs, vous nous dites ce que vous en pensez. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que les HLM ont raison de vouloir expulser les familles de délinquants? Vous appelez le 3921. On va en débattre dans un instant, en parler dans un instant. Allez, la 75e édition du Festival de Cannes a débuté hier. Pendant la cérémonie d'ouverture, la star hier soir, c'était évidemment le président du jury, Vincent Lindon. Il risque d'être quelque peu éclipsé aujourd'hui par une superstar américaine, le légendaire Tom Cruise. Toujours en pleine forme à 60 ans. Marie Jiquel, envoyée spéciale d'Europe 1 à Cannes. Tom Cruise qui va présenter ce soir sur la Croisette le film événement dont Europe 1 est partenaire officiel. Top Gun, Maverick, tout le monde voudra voir Tom Cruise. Hein ?
Et oui, c'est la star que tous les festivaliers attendent.
Tom Cruise pour Top Gun ? Oui, j'ai amené mes jumelles.
L'acteur Tom Cruise, 60 ans cette année, est la promesse d'assurer le show sur la Croisette, comme il assure lui-même les cascades de ses films. 30 ans que la superstar n'avait pas foulé le tapis rouge de Cannes, et pourtant les films d'auteur ne manquent pas à sa filmographie. On se souvient d'Ice White Shot de Stanley Kubrick, ou Magnolia de Paul Thomas Anderson, une carrière étourdissante sur laquelle il aura l'occasion de revenir cet après-midi lors d'une masterclass. Ensuite, on imagine qu'il aura tout juste le temps d'enfiler son smoking et ses Ray-Ban pour retrouver les marches du palais du festival et envoyer les amoureux du 7e art au 7e ciel.
Marie Jiquel, merci Marie. Marie Jiquel, envoyée spéciale d'Europe 1 à Cannes. Voilà, ça va être formidable cet après-midi. Et à l'occasion de cette avant-première de Top Gun Maverick, la patrouille de France va survoler la croisette au moment où Tom Cruise va fouler le tapis rouge. Et comme Europe 1 est partenaire du film, eh bien l'un de nos journalistes, l'un de nos reporters est invité à monter à bord de l'un des Alpha Jets de la patrouille de France. Et l'heureux élu, ou le malheureux élu, non, c'est l'heureux élu, évidemment, c'est formidable. C'est vous, Johan Tritz. Première question,
bonjour,
Johan. Bonjour, Johan. Première question, comment est-ce que vous vous sentez? Un peu d'appréhension?
Bon, ça va. On va dire que le stress monte un peu parce que je suis déjà en mode pilote. Hein, pour vous dire, je suis en tenue de combat, ça y est. Je porte en ce moment une combinaison couleur sable et en dessous des vêtements ignifugés, les classiques chaussures montantes, pantalon antigé, c'est un peu lourd. Et en plus, on a un petit peu chaud et j'ai enlevé le casque tout à l'heure pour bien sûr vous parler.
Ah, Johan, vous avez, j'imagine, aussi appris à utiliser le siège éjectable, bien sûr. Vous êtes à côté de l'avion, là. Hein.
Juste à côté, je peux même le toucher. L'avion, je vais apprendre tout à l'heure comment fonctionne le siège éjectable. En attendant, j'ai plutôt approché les Alpha Jets de la patrouille. Je dis ça, approché, mais monté dedans tout à l'heure. C'est pas très grand. Il y a juste le pilote et moi qui vont monter tout à l'heure dans les cockpits. On est un petit peu à l'étroit à l'intérieur. Donc j'ai pu m'installer en grappant, un petit peu en mode sportif. Et puis j'ai fait comme dans Top Gun, j'ai touché un petit peu aux manettes, touché le levier de pilotage, les manettes de gaz, les commandes de tir. J'ai même actionné ce qui sera fait tout à l'heure pour le fumigène, la petite commande. Et puis j'en ai profité pour faire un petit peu le malin, évidemment, parce qu'en vol, la seule consigne, c'est quoi? Ne touchez à rien, ne vous inquiétez pas, je ne toucherai à rien tout à l'heure.
Ah oui, je vous le conseille, effectivement. Merci beaucoup, Johan Tritz. Ça va être un événement formidable à vivre par les auditeurs d'Europe 1 dans le journal d'Hélène Zélani à 19h dans Punchline avec Laurence Ferrari, puis à regarder si vous le voulez à la télévision, bien sûr. Merci beaucoup Johan et bon vol à vous. Il est midi 18, la météo avec vous Anissa Haddadi avec l'arrivée des orages cet après-midi.
Oui, ça se dégrade effectivement par l'ouest avec l'arrivée des orages en fin d'après-midi. Des orages parfois violents, ça concerne tout le long de l'Atlantique, entre la Bretagne, les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine et même jusqu'au Pays Basque, où là, sur les Pyrénées-Atlantiques, on pourrait avoir de fortes rafales de vent jusqu'à 80 km/h. Ces orages seront souvent accompagnés de grêles et arriveront en début de nuit du côté des Hauts-de-France et de la région parisienne. Les Alpes sont concernés également par ces orages. Partout ailleurs, le temps reste calme. Les températures restent très élevées encore cet après-midi. 8 à 10 degrés au-dessus des moyennes de saison, avec 34 degrés pour Nîmes et Bordeaux, 32 à Biarritz et Béziers, 30 pour Paris et Aurillac, 27 à Lille, 23 à Nice et 20 pour Dunkerque.
Merci beaucoup Anissa. Il est midi 19. Restez bien avec nous dans Europe Midi. Dans un instant, on va parler de l'inflation. On va parler de la chaleur, de la sécheresse également, témoignage dans Europe Midi. Et puis on va parler également de ce qui se passe à l'office HLM de Nice qui veut expulser des familles de trafiquants de drogue. La justice a donné raison à l'office HLM. On en débat. Est-ce que c'est la bonne solution? Restez bien avec nous, à tout de suite.
Europe 1.